On va ouvrir la parole. Finalement, on va continuer, ou plutôt aller plus loin, par rapport à ce qu'on a partagé mardi soir sur ce que l'on pourrait appeler les silences de Dieu. Quand on a l'impression, et parfois plus que l'impression, que le ciel est fermé, que le Seigneur ne répond pas. Alors, c'est lorsque Dieu se tait ou les silences de Dieu. Et maintenant, on va aller dans l'évangile de Marc, chapitre 14 et verset 61. Pendant que vous cherchez Marc 14, 61, autant on est content parfois quand certaines personnes se taisent, autant quand c'est Dieu qui ne nous parle plus, ça ne donne pas la même impression, hein. Ce n'est pas le même effet. Là, parfois, ça nous est arrivé, peut-être avec nos parents, je ne sais pas vous, mais moi je me revois certaines situations très rares où je m'attendais à l'orage et c'était le silence. À la limite, c'est pire. Parce que vous vous dites, oula, c'est tant que ça, si fort que ça, ce que j'ai fait, j'en suis pas conscient. Voilà. Et quand la réponse, c'est, je préfère ne rien dire et ne pas lever la main parce que sinon, ça ferait mal. Là, vous mesurez que vous êtes allé un petit peu loin. Voilà, mais ça m'est arrivé très rarement. Marc 14, ouais, c'est ça. J'ai fait exprès pour avoir le retour. Vous aussi. Marc 14, 61. Jésus garda le silence. Alors, le contexte est le suivant, au verset 55 et même avant. Donc, les principaux sacrificateurs, tout le Sanhédrin, verset 55, cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent, portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et lui dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interroge à nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors on laisse de côté la suite du récit pour aller dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 3, tout autre contexte, mais un point qui est commun, le Seigneur ne dit rien. Jean 8, 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il y a des moments, donc, où le Seigneur a fait silence. Mais avant de faire silence, toujours le Seigneur parle. C'est ce qu'on disait mardi soir. Il ne commence pas par se taire, il peut finir par se taire. Mais il commence toujours par parler. Voilà. Depuis la création, quand on lit la Bible, jusqu'à l'arrivée à l'Égypte, Dieu a parlé. Dieu a parlé au travers d'Abraham, à Abraham, et au travers de lui, au travers des patriarches. Dieu a parlé au travers de Moïse. Voilà. Et puis il y a un temps où Dieu ne dit rien, pendant cette période-là. Mais pendant ce temps, on pourrait se poser la question, mais que fais-tu, Seigneur? Qu'en est-il finalement? Et là, nous avons toujours une réponse qui vient, notamment dans Exode chapitre 3, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais les douleurs. Donc même dans nos vies, si il y a des moments où nous avons l'impression que le Seigneur ne dit rien, ce n'est pas parce qu'il est ailleurs, il est toujours là. Il est toujours là, mais de temps en temps, il ne dit rien. De temps en temps, il fait silence. Parce que c'est le temps pour lui de bien voir, de bien entendre. Et puis c'est le temps pour nous d'élever notre voix et de nous adresser à lui. Pendant que le Seigneur fait silence, maintenant on peut le dire parce que c'est ce qui ressort à chaque fois où le Seigneur a fait silence, c'est que pendant ce temps, il préparait le moyen d'en sortir. Il y a du silence pendant que le peuple est en Égypte sous l'esclavage ou dans l'esclavage. Il prépare le moyen d'en sortir. Moïse est prévu. Il est annoncé et il arrivera. C'est ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens. Parfois, on a l'impression que l'épreuve dure. 1 Corinthiens 10, 13. On ne comprend pas ce qui se passe à tel point qu'on peut même se poser la question « Est-ce que cela ne viendrait pas de toi, Seigneur ?» Alors la réponse, il faut la donner tout de suite et clairement. Jamais Dieu ne s'amusera avec nous. Parce que le rapport de force, il n'est pas en notre faveur. Il est le Tout-Puissant, nous sommes rien. C'est comme si nous nous amusions avec un nourrisson. Ce n'est pas juste. Dieu ne s'amuse pas avec l'être humain en lui envoyant des problèmes et des difficultés. Il ne s'amuse pas avec ça. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve ou la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je suis dans l'épreuve, dans le feu, dans la difficulté, et quand on est dans ce cas de figure, parfois on a du mal à réfléchir, à être objectif et à être juste à l'égard des autres, parce qu'on n'est pas bien, on est mal, et parfois même à l'égard de Dieu, parce que de toute façon, s'il y a un coupable, en dernier lieu, c'est lui. Si on n'a trouvé personne d'autre, c'est lui. Pourquoi? Ben parce que il cumule ce qui le rend coupable. Il peut tout. Il sait tout. Il voit tout. Alors comment puis-je me retrouver dans cette situation alors qu'il peut tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il peut intervenir à n'importe quel moment? Il y a d'autres explications pour répondre à cette question. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? C'est que le monde est dans cette situation. C'est que pendant des années où les choses allaient bien dans ma vie, le Dieu qui peut tout, qui voit tout, qui sait tout, je l'avais placé où? Alors comment pourrais-je maintenant, avec honnêteté, lui dire « Mais tu sais tout, tu peux tout, tu vois tout, agis !» Il pourrait me répondre « Oui, maintenant, parce que tu n'en peux plus, tu viens à moi presque avec des reproches, mais pendant des années où moi j'ai essayé de te parler, là, je pourrais t'en faire des reproches. Mais pour autant, il ne joue pas avec nous. Et aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Donc, ça veut dire que nos difficultés ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'amuse avec nous. Et comme il est fidèle, il ne permettra pas que ça aille au-delà de nos forces, dans la mesure où on vient à lui, on se confie en lui, et de facto, il prépare le moyen d'en sortir. Alors, la bonne nouvelle déjà, à ce stade, c'est que au moment où le Seigneur ne dit rien, maintenant pour nous, ça doit être un signe révélateur et annonciateur, il est en train de préparer la sortie. Et ça, vous pouvez le garder parce que c'est la vérité, c'est fondé. Pendant que le Seigneur ne dit rien et ne fait rien en apparence, ça veut dire qu'il est en train de construire quelque chose d'important. Et il a annoncé avant que nous nous adressions à lui, qu'il prendrait soin de celui qui se confie en lui. Donc quand je me confie en lui, Dieu enclenche les solutions dont j'ai besoin. Ils vont sortir d'Égypte, ils vont aller jusqu'aux portes de Canaan pendant 1 an et demi dans le désert, et Dieu va leur parler. Il va parler à Moïse sur la montagne, il va parler au peuple qui est en bas, d'une certaine manière, ils vont entendre des choses, il va leur donner les tables de la loi, et Moïse va les briser. La première fois, Dieu redonnera les tables de la loi, il va leur donner énormément de règles dans leur vie de tous les jours et puis dans la vie spirituelle que le Seigneur attendait d'eux. Il y a un temps, pour nous, c'est le temps de recevoir la parole de Dieu, c'est le temps de lire la parole de Dieu, c'est le temps de construire le tabernacle dans notre vie, notre autel, notre lieu de rencontre avec Dieu. Et ce qui se passe après, c'est que arrive l'obéissance, la désobéissance, pardon. Et là, eh bien, autant pendant un moment, ils ont reçu ce que Dieu voulait leur dire et leur donner, autant après, ils vont tourner en rond. Mais ce n'est pas à Dieu la faute. Parfois, nous tournons en rond, alors que Dieu nous a parlé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous a dit. Et là, pendant 38 ans, ils vont tourner en rond dans le désert. Alors, ils pourraient se plaindre, mais ils ne le font pas vraiment, parce que la réponse, elle arrive vite. Mais à cause de qui vous tournez en rond ? Ce n'est pas à cause de moi que vous tournez en rond. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu leur a dit, maintenant vous envoyez 12 espions pour voir le pays, mais pas pour revenir vous dire, oh là là, oh là là, oh là là. C'est pour dire, ben voilà les routes, voilà les chemins, voilà par où il faut passer, on y va. Et sur 12, 2 vont dire, ben on y va. Et 10 vont dire, oh là là, oh là là, oh là là. Et du coup, eh bien, ils vont tourner 38 ans dans le désert, et la génération d'après rentrera en Canaan. Et ce sera plus compliqué, parce que les autres, pendant 38 ans, ils savent ce qui va leur tomber dessus. Parce que le téléphone, je ne sais pas si on peut dire déjà à cette époque-là arabe, oui, on peut le dire, fonctionnait. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est pas rien, ça s'est su. Parce que ça a impacté tout le monde connu de l'époque, les plaies d'Égypte. Et tout le monde tremble devant ce peuple qui pourtant n'est qu'un ramassis d'esclaves depuis des générations. Mais tout le monde tremble devant eux parce qu'on sait ce que Dieu a fait. Alors pendant 38 ans, en Canaan, ils se disent, ils vont rentrer, on ne sait pas quand, on ne sait pas par où, mais ils vont rentrer. Alors ils ont fortifié les villes. Hein. Et Jéricho, s'il y avait des trous dans la muraille, 38 ans après, il n'y en a plus. Et il faudra que ce soit Dieu qui les fasse tomber les murailles. Donc c'est pour dire que si, pendant un temps dans ma vie, j'ai l'impression que Dieu ne parle pas, c'est peut-être le temps de me remémorer ce que Dieu m'avait dit et que je n'ai pas fait en temps et en heure. Et comme je ne l'ai pas fait en temps et en heure, la situation s'est compliquée. On n'est pas au paradis. On est sur la terre. Donc quand sur la terre, je ne fais pas ce que Dieu dit, ça se complique. Parce que c'est le principe malin, c'est comme ça. Au paradis, il n'y a pas de problème. Ça ne se compliquera jamais. Vivement le paradis. Avez-vous votre place au paradis? Comme je le disais il y a quelque temps, nous souscrivons beaucoup de contrats, d'obsèques et de dépendances. Mais l'important, c'est d'avoir le contrat résurrection. Et d'avoir bien signé et de savoir que notre nom est inscrit là. Parce que pour les autres contrats, suivant ce qui vous arrive, eh bien vous avez payé et vous avez signé, donc on va respecter vos volontés pour le contrat obsèque. Mais pour la résurrection, c'est extraordinaire. Ce n'est pas moi qui ai payé, c'est le Seigneur, mais moi j'ai signé. Lui, il a signé, moi j'ai signé. Donc à la résurrection, on va veiller, c'est Dieu qui va veiller à faire ce qui est écrit. Il m'a donné son cœur, son nom est inscrit dans le livre de vie, ce sont les anges qui vont le chercher. Allez. Et les anges sont venus porter Lazare dans le sein d'Abraham. Ça, c'est extraordinaire. Donc, dans ma vie, chaque fois que je vais faire ce que le Seigneur dit, je vais être sous le coup de grâce et de bénédiction. Et dans le paradis, il n'y aura aucun aspect régressif de la situation ou négatif. Mais ce n'est pas le cas sur la terre. Sur la terre, le principe malin est que si on ne fait pas ce que Dieu dit, on recule, on régresse, on s'enfonce, ça se dégrade. Et eux, ça a duré 38 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que 38 ans plus tard, comme 38 ans plus tôt, Dès que quelqu'un fait ce que Dieu dit, quelle que soit la situation qui s'est même dégradée pendant les 38 années, Dieu va agir. Et ils vont rentrer en Canaan. Ils y seraient rentrés 38 ans plus tôt, il n'y aurait peut-être pas eu autant de fortifications. 38 ans plus tard, ça s'est endurci, ça s'est fortifié. La résistance s'est installée. Mais Dieu va arriver au bout. Donc la bonne nouvelle ce soir, c'est que si quelqu'un a laissé passer du temps, alors qu'il aurait dû faire ce que Dieu lui avait dit de faire en temps et en heure, et que pendant ce temps, ça s'est durci, ça s'est sclérosé la situation, ça s'est dégradé, ça c'est une réalité, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est toujours le Tout-Puissant. Et en Canaan, le peuple rentrera. Le pays promis, le peuple y arrivera. Les bénédictions que Dieu a pour ses enfants les recevront. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour cela que, quand de temps en temps le Seigneur ne dit rien, peut-être qu'on se rappelle tout ce qu'il avait dit. Voilà. Et ils vont rentrer en Canaan. Et il est dit à Josué, tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu ne discutes pas. Je vous ai demandé de faire chaque jour un tour de la ville de Jéricho. Et le septième jour, sept tours. Et vous sonnerez de la trompette. N'essayez pas de comprendre le pourquoi du comment. La situation compliquée, c'est moi qui la gère. Ce que j'attends de vous, et ce que Dieu attend toujours de nous, c'est de l'obéissance. Je ne sais pas quel est le cours de l'or aujourd'hui. Combien vaut un kilo d'or? Je crois que c'est 10 000 euros ou plus. Bon, bref. Combien vaut un gramme d'obéissance? Vous pouvez monter. Hein? Un gramme d'amour. Un gramme d'amour. Mais de l'amour de Dieu, hein? Ça vaut. Un gramme de patience. Alors, je ne sais pas si ça se pèse en grammes, si ça se mesure en kilomètres, la patience, parce qu'on attend, on attend, on attend. Mais ça ne se paye même pas tellement ça de la valeur. Dieu a de l'amour à mon égard et il en a des kilos. Je voudrais dire, même il en a des tonnes. Voilà. Il a de la patience à mon égard. Il a de l'amour à mon égard. Et puis, il a de la bonté à mon égard. Et quand je m'adresse à lui, il entend, il veut répondre. D'une certaine manière, on pourrait dire que le Seigneur tient compte de ce qu'on lui dit. Ne serait-ce pas une forme d'obéissance? Sans dire qu'il nous obéit. Mais il tient compte de ce qu'on lui dit. Alors, vous l'appelez comment ça? Quand le Seigneur tient compte une fois de ce que vous lui avez dit, et puis il en tient compte deux fois, et puis il en tient compte trois fois, et depuis que nous lui demandons des choses au Seigneur, combien de fois a-t-il tenu compte de ce que nous lui avons demandé? Oh Seigneur, tu es plus fidèle que nous, tu es plus à l'écoute que nous, et ce que tu as en droit d'attendre de nous, ben finalement tu le manifestes à notre égard. Alors agis fidèlement selon tout ce qui est écrit et tu seras béni. Naaman, plonge-toi sept fois dans le Jourdain, tu seras pur. Et il n'y a pas à discuter. Parce que tu es général en chef, et tu as l'habitude de donner des ordres, de discuter. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est faire ce que Dieu dit, écouter ce que Dieu dit, obéir à ce que Dieu dit. Et là, il y a la bénédiction. Après, je comprendrai. Mais le peuple va... Après être rentré en Canaan, et c'est peut-être parfois ce qui se passe dans nos vies, on a écouté ce que Dieu a dit, on a fait ce que Dieu a dit, il y a eu des temps de bénédiction, mais on n'a pas tenu. On a en nous quelque chose qui nous colle à la peau, c'est le manque de stabilité, le manque de persévérance. Arrive le temps des juges, ils abandonnèrent l'Éternel, et puis au bout d'un moment, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. De temps en temps, le Seigneur fait un peu comme nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous ai tout dit. Que voulez-vous que je fasse de plus? J'ai tout accompli. Si vous n'êtes pas béni là où vous êtes, il faut peut-être se poser la question, est-ce que vous êtes là où il faut? Revenez à moi, de tout votre cœur, dit l'Éternel, et vous verrez. Et vous verrez la bénédiction de Dieu. Alors, comme on le disait mardi, viendra ensuite la déportation à Babylone. Mais avant qu'il soit déporté à Babylone, Dieu a parlé 10 prophètes avant l'exil à Babylone. Parmi ces prophètes, il y a le prophète Joël. Et c'est dans le prophète Joël qu'on entend ces paroles qui ne sont pas des paroles de reproche. « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Voilà les projets de Dieu pour nos vies. Arrive cette parole du prophète Ésaïe, annonçant la venue du Messie. Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Et cette parole du prophète Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Mais même avec des paroles comme ça, ils ont quand même désobéi. Comme quoi, on a quelque chose qui est en nous et qui est de l'ordre de la génétique spirituelle, c'est que le mal est en nous, et avec notre bonne volonté, on n'y arrive pas. Il faut qu'il soit ôté, il faut qu'il soit effacé, et que quelque chose de nouveau prenne la place. Arrive la période d'exil. Et pendant qu'ils sont à Babylone, 3 prophètes, Daniel, et Daniel dit, j'ai lu dans les livres ce que Dieu va faire. Ézéchiel, as-tu vu, fils de l'homme ? Et Abdias. Alors la parole d'Abdias, elle est extraordinaire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce n'est pas un ultimatum. C'est un rappel d'un rendez-vous qui est inévitable, incontournable. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui paieraient des sommes folles pour rencontrer quelqu'un qu'elles apprécient, qu'elles aiment, une idole ou autre. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie ? Et nous, nous aurons le privilège de rencontrer Dieu. Il va peut-être falloir penser à ce qu'on va lui dire. Ça se prépare un rendez-vous comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu des rendez-vous majeurs dans votre vie. Non pas auxquels vous êtes convoqués parce que ce que vous avez fait vous amène devant le juge ou autre. Mais un rendez-vous important qui va changer le cours de votre vie. Voilà. On se prépare, on n'y va pas comme ça. Alors, je vais prendre un exemple qui fait sourire. Tout le monde se met à penser à ce qu'il va dire dans sa déclaration à sa bien-aimée. Eh bien, avec toute la préparation du monde, quand ça sort, parfois la bien-aimée, il faut qu'elle décrypte le message. Et pourtant, c'est un rendez-vous majeur, parce qu'il va impacter le reste de votre vie. Voilà. Et on est, les uns et les autres, appelés à se présenter devant Dieu. Et comme un rendez-vous se prépare, lui, il l'a préparé. Dans certains ministères ou à l'Élysée, tous les rendez-vous se préparent. Même les questions sont préparées à l'avance et les réponses avec, quand il passe à la télévision. Donc avec Dieu, le rendez-vous se prépare et Dieu l'a préparé. Et il nous dit, voilà, il n'y aura aucune surprise. Personne ne sera pris au dépourvu. Ah, la question à laquelle je ne m'attendais pas. Elles sont déjà toutes là, les questions. Et le Seigneur de dire, pour certaines, c'est vous qui répondez. Pour d'autres, si vous acceptez, c'est moi qui vais répondre. Concernant le pardon de mes péchés, c'est l'agneau qui répond. J'ai donné ma vie. C'est pardonné, c'est effacé, c'est réglé. On passe à la suite. Alors, tu peux rentrer dans l'éternité. Mais le rendez-vous se prépare. Et puis après, l'exil, il y a 3 prophètes. Alors, il y en a un, c'est notre prophète ici à Arles. C'est Agé. Le prophète Agé, chapitre 1er. Quelques versets du chapitre 1er, verset 2. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré, vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud, etc. Chapitre 2, verset 3, et ça c'est notre parole pour nous, au début de la construction. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? On est après l'exil, ils reviennent à Jérusalem et tout est par terre. Alors maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays de l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Quelle grâce! Au moment où il aurait toutes les raisons de faire des reproches, il dit simplement, faites le constat comme je le fais. Dans quel état est ma maison? Parlant de la maison physique, dans quel état est ma maison, puisque nous sommes appelés à être une habitation de Dieu en esprit? Dans quel état est votre maison? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Mais je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite, et mon esprit est au milieu de vous. Alors, travaillez. Travaillons à notre salut, non pas pour l'accomplir, puisque c'est le Seigneur qui l'a accompli. Mais ce qu'il a accompli, il faut que je me fasse violence pour que ça vienne dans ma vie. Et c'est peut-être pour ça que le Seigneur fait silence un peu. Parce que moi, je lui demande, dirige-moi, bénis-moi, réponds-moi, etc. Et le Seigneur de dire, on peut faire une pause de 2 minutes là. Le salut de ton âme, c'est pour quand, dans l'ordre des choses? Le pardon de tes péchés, tu le places quand en termes d'importance? Parce que moi, je l'ai placé en premier. Si ta vie s'arrêtait ce soir ou demain, à quoi servirait-il toutes les réponses que tu attends, puisque celle qu'il te faut, tu n'es pas allé la chercher. Alors qu'elle est là, elle est prête. Dès que tu vas me dire, souviens-toi de moi, je te répondrai, je te le dis aujourd'hui. Zacharie. Les 3 derniers prophètes, c'est facile. Agée, Zacharie, Malachie. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Quelle grâce! Au moment où on a l'impression que tout est fini, le Seigneur de dire, mais je vais vous envoyer la plus belle et la plus grande bénédiction que le monde ait jamais connue, la venue du Messie, qui va fermer l'enfer, le séjour des morts pour ceux qui se confient dans le Seigneur, qui va bouleverser l'ordre établi des choses, les portes du ciel, il va les ouvrir, et sur la terre et dans nos vies, tout va être transformé. C'est extraordinaire quand Dieu parle. À la limite, si le Seigneur ne vous a pas parlé depuis quelque temps, attendez-vous à une parole qui va transformer votre existence. Parce que Dieu ne parle pas à petite dose, à petite bénédiction, à petite grâce. Il est en train de dire peut-être à quelqu'un ce soir, tout ce que tu m'as demandé s'est enregistré. Il y a juste un élément déclencheur qu'il faut que tu prennes conscience. C'est le salut de ton âme, le pardon de tes péchés. Je veux te le donner et tout le reste par-dessus. Alors, on pourrait dire, Seigneur, tu pourrais d'abord exiger le pardon des péchés, après tu bénis. Ça fait un peu carotte. Non, il répond à celui qui s'adresse à lui, et assez rapidement, il lui dit, je voudrais te donner autre chose dont peut-être tu n'es pas encore conscient, mais qui pour moi relève de la plus haute importance. C'est que tu sois dans le ciel, dans la présence du Père là-haut pour l'éternité. Et on termine avec Malachie, chapitre 4, verset 1er. Dernière parole de l'ancienne alliance. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. C'est une belle image, hein? Pas le prendre mal, hein. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. C'est une belle image parce que on a été dans le Limousin, on a été dans la Gascogne. Je vous assure que après la période où les veaux sont enfermés et que le paysan ouvre les portes, vous êtes surpris. Hein. Faut pas se moquer, hein. Parce que sauter comme ils sautent, ils bondissent, ils explosent de vie et de joie. Et le Seigneur de nous dire, comme les dernières paroles de cette alliance qui aurait pu mal se terminer à cause de ces siècles de désobéissance, le Seigneur de faire le constat, d'accord, Si moi je n'interviens pas comme j'ai prévu d'intervenir, rien ne changera dans vos vies, mais j'ai prévu d'intervenir jusqu'à bouleverser l'univers entier dans ses fondements pour que les choses changent dans votre vie. Alors il y a un temps où le Seigneur ne dit rien devant cette femme pécheresse. Il écrit avec le doigt sur la terre et puis il s'adresse à tout le monde. Le premier d'entre vous qui est sans péché, hop, ça calme tout le monde. Et puis il se lève devant elle. Et ce tableau, si un peintre pouvait le faire, il est magnifique. Va et ne pêche plus. Le Seigneur est capable de dire à cette femme qui était peut-être en dérive totale, ta vie pour l'éternité commence maintenant, et comme elle sera belle et grandiose dans l'éternité, ça commence aussi maintenant. Si tu vas et tu ne pêches plus, tu seras béni au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer. On trouvera une autre femme assise aux pieds de Jésus, Marie, qui pleure. Et Jésus ne dit rien. Il ne dit rien. C'est le silence. Mais c'est le temps pour elle de venir s'approcher, de s'agenouiller, d'être seule près de lui. Si le Seigneur fait silence à votre appréciation, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. C'est quand la dernière fois que quelqu'un s'est mis à genoux devant vous? Comment est-ce que vous avez réagi? Ça vous met dans... Vous n'y attendez pas. En général, on est au même niveau, etc. Mais là, vous avez quelqu'un qui vient se mettre à genoux devant vous. Et puis, il se met à genoux devant tout le monde. D'un seul coup, tout le monde se tourne vers vous, mais qui c'est celui-là pour que l'autre s'agenouille? Alors, si c'est une jeune fille envers un jeune homme, on comprend qu'il fait sa déclaration. Mais là, ce n'est pas dans ce cas de figure. Cette femme, elle s'agenouille. Elle s'assoit au pied du Seigneur Jésus et elle l'écoute. Quand quelqu'un s'agenouille devant le Seigneur, dans le ciel, on entend les mouches voler. S'il y en a, le Seigneur est en train de prendre soin de cette personne. Il va la bénir au-delà de ce qu'elle peut attendre. Parce que son geste, c'est un geste total d'abandon, total de confiance. Et pourtant, le Seigneur, il n'a rien dit. Mettez-vous à genoux devant lui. Vous êtes mis à genoux devant pas mal de choses. Hein. Parfois, il s'est mis à genoux parce qu'on a trébuché. Bah, on s'est ramassé par terre. Pourquoi ne pas se mettre à genoux devant le Seigneur? Quel risque prenez-vous de vous mettre à genoux devant lui? Parfois, moi, je l'ai dit à quelqu'un, si Dieu n'existe pas, vous prenez le risque d'être ridicule 2 minutes. Mais le ridicule, rassurez-vous, ça ne tue pas. Par contre, si Dieu existe, je suis incapable de vous dire quel risque vous prenez. Parce que vous prenez le risque d'être béni et ça ne se comptera même pas. Ce que Dieu est capable de faire dans votre vie, parce que vous vous êtes mis à genoux devant lui, vous ne pouvez ni l'imaginer, ni le compter. Voilà. Il t'accuse, ne réponds-tu rien? Il garde le silence. Envers certaines personnes, le Seigneur va garder le silence. Mais envers d'autres, il va répondre. Alors on va terminer avec ce que dit l'Ecclésiaste. Quand tu entres dans la maison de Dieu, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Alors du coup, je ne devrais pas dire ça avant un moment de prière, parce que vous pourriez le faire. Mais le rendez-vous est de la plus haute importance. Je ne me hâte pas d'ouvrir la bouche, parce que je veux réfléchir. Je veux penser à ces moments. Et si quelqu'un veut se mettre à genoux, vous avez toute la liberté de le faire. Je ne sais pas quel est votre parcours de la semaine ou de ces temps passés. Si vous avez l'impression que Dieu n'a rien dit, comme vous l'attendiez en tout cas, mais on a compris une chose, c'est que pendant qu'il ne dit rien, il prépare tout. Et au moment où d'autres ne diraient rien pour certaines raisons, lui, il sait très bien que s'il nous traite comme on le mérite, on n'y arrivera jamais, on n'en sortira jamais, alors il nous fait grâce et il envoie le Messie. Autrement dit, ce que Dieu est en train de préparer pour celui qui s'adresse à lui, c'est la plus grande bénédiction de sa vie. Que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, que ce soit le pardon de ses péchés, ça n'a pas de valeur. Et seul le Seigneur est capable de l'accorder. Alors peut-être qu'il n'a rien dit, parce qu'il préparait quelque chose de tellement important pour vous. Et c'est ce soir qu'il veut commencer à vous le donner.
Amen.
On va se tenir dans la prière à l'instant.